Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'actualité de Namadimba à la présentation. Voici les titres du journal du soir de Radio Okapi. Le nouveau chef de la MONUSCO continue ses visites de contact en République démocratique du Congo depuis sa prise de fonction. Aujourd'hui, il est notamment allé voir comment travaillent les casques bleus à Fataki et à Nitouri et il a réitéré que la MONUSCO ne laissera pas la RDC seule pour ramener la paix dans la province de l'Ituri. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les montants des frais à payer pour participer au TENASOP et à l'examen d'état hors session et session ordinaire. L'ENAFEP, l'autre examen, reste gratuit. Le ministère appelle alors à ce sujet la population à ne pas payer les frais autres que ceux demandés par l'État, mais aussi invite la population à dénoncer tout dérapage. Le gouvernement de la RDC a construit et réhabilité certaines routes en Mbujimayi et au Kasaï oriental, mais quelques temps seulement après, ces travaux subissent de nombreuses critiques et ces critiques avancent d'ailleurs que ces réalisations se dégradent progressivement. Le patron de l'OVD, service de l'État qui veille sur la voirie et des drainages, nous éclaire la situation dans un instant. Bonsoir à tous, une nouvelle fois. Ouvrons ce journal avec ce premier voyage effectué par le nouveau patron de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Fataki, territoire de Djougou, province de l'Ituri. James Swan voulait s'imprégner du travail des casques bleus en matière de protection des civils dans cette entité affectée par les groupes armés. Selon son constat, l'impact des interventions des casque bleu reste très significatif malgré les défis sécuritaires persistants. Il a assuré que la MONUSCO poursuivra ses efforts aux côtés du gouvernement de la RDC pour le retour d'une paix durable dans la province. Isaac Raymond.
Les territoires de Djougou comptent le plus grand nombre de contingents de la MONUSCO en Ituri, avec au moins 5 bases militaires, notamment Jina, Djaïba, Ro et Bayo. Ce casque bleu assure la protection directe des centaines de milliers de déplacés installés dans des sites situés à proximité de leur position. Au cours d'une réunion tenue ce jeudi avec les responsables de ces sites, il a été souligné que la présence de la force de la MONUSCO a permis de préserver la vie de nombreux habitants, notamment dans des zones où les FARDC sont absentes ou en sous-effectif. Les casques bleu mène également des patrouilles pour contenir les menaces des groupes armés dans les différentes localités ciblées par ces milices ainsi que sur la RN27 afin de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Cependant, la population déplore la persistance de l'insécurité dans la région qui a entraîné un nouvel afflux de déplacés. Elle appelle les chefs de la MONUSCO à renforcer son appui au gouvernement pour éradiquer les groupes armés et permettre le retour des milliers de déplacés dans leur village d'origine. Les chefs de la MONUSCO a pour sa part réitéré l'engagement de la mission onusienne, conformément à son mandat, à répondre aux aspirations des populations meurtries par plusieurs années de violence des groupes armés. Des retours de Fataki, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Irengeti, localité située à 60 km au nord de la ville de Beni, pendant ce temps, on continue de mentionner l'existence des enfants nés des violences sexuelles. Les chiffres parlent d'environ 352 enfants nés de grossesse issus des violences sexuelles perpétrées par de nombreuses personnes et membres des groupes armés encore actifs dans la région. Pour les responsables locaux du service du genre famille et enfants, cette réalité fragilise de nombreux ménages et nécessite une intervention urgente du gouvernement et des organisations de protection des droits de l'enfant. Mac Maros Fimbo pour les détails.
Ce tableau alarmant a été présenté mardi au chef de la MONUSCO en visite à Engeti où James Swan a échangé avec les différentes couches de la communauté. Selon la chef du bureau du genre Famille et Enfants des groupements de Bambou Bakisiki, la plupart de ces enfants sont abandonnés par leur mère, victimes de traumatismes profonds liés aux violences subies. Beaucoup d'entre eux vivent aujourd'hui dans des familles d'accueil sans véritable prise en charge adaptée. Katungurema, chef du bureau du genre, estime qu'un accompagnement conséquent est indispensable aussi bien pour les enfants et pour leur mère.
Ici, les femmes subissent des conséquences terribles de la guerre, des grossesses non désirées, la mort des enfants, les manques de soins pour les femmes et leurs bébés. Plusieurs enfants nés des violences sexuelles commises par les groupes armés. À Eringeti seulement, nous comptons près de 352 enfants issus de ces grossesses. Nous appelons les gouvernements et les organisations de protection des droits des enfants à intervenir pour nous venir en aide.
Katungurema précise que les cas les plus signalés concernent les groupements de Bambou Bakisiki en territoire de Beni, mais aussi des localités d'Idou, Mambelenga et Ndalia dans la province voisine de l'Ituri, des zones que plusieurs familles avaient fui pour se réfugier vers Eringeti à la suite d'insécurité persistante. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et puis cette nouvelle encourageante, une première vague de 470 réfugiés congolais en provenance du Burundi a regagné la ville d'Uvira aujourd'hui selon le HCR Burundi. Ce retour intervient après une longue attente exprimée par les réfugiés qui désiraient ardemment retourner au pays. Le point avec vous, Jean Kassami.
Le convoi a quitté le camp de Boussouma dans la province de Rouigi depuis ce matin. Leur arrivée à Uvira est prévue entre 15h30 et 16h heure de l'Est. La responsable est d'HCR au Burundi, Brigitte Henault.
Nous donnons du transport à partir du Burundi. C'est à l'arrivée au Congo que ces personnes pourront bénéficier de ce que nous appelons un petit paquet retour pour leur permettre de se réintégrer dans la sécurité et dans la dignité. Et ça sera fait par le HCR et les autres partenaires, bien sûr, au niveau du Congo, notamment le PAM qui donne également une assistance pour 2 mois de rations alimentaires. Et du côté du HCR, il y aura une assistance en cash pour les adultes comme les enfants, mais également un appui pour la réinsertion dans le service éducatif pour les enfants.
Une fois arrivées sur le territoire congolais, ces personnes retournées vont être accueillies à Kavimvira dans un site aménagé par le Haut Commissariat aux réfugiés. Selon les responsables d'HCR Uvira, la participation de la société civile est requise pour bien mener l'opération. De son côté, le vice-gouverneur du site Kivu assure que la sécurité est garantie dans les zones de retour. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la situation sécuritaire demeure confuse à Kampene, dans la chefferie de Babene, territoire de Pangui. Selon les informations recueillies, des tensions sont nées d'un conflit opposant les Wazalendo dirigés par Kiwis aux jeunes initiés localement appelés Bikonde. Ces affrontements ont entraîné la paralysie totale des activités dans cette partie du Maniema, ainsi qu'un déplacement massif des populations qui fuient les conséquences de ces violences. Face à cette situation, le gouvernement provincial affirme se mobiliser pour rétablir l'autorité de l'État. Des éléments de force de l'ordre ont déjà été déployés sur place et une commission mixte doit suivre pour sensibiliser les communautés en conflit et promouvoir la paix. Florence Kizalunga.
Depuis la nuit du 19 au 20 avril, le village de Kampene dans le territoire de Pangui est le théâtre d'affrontements entre les Wazalendo et de jeunes Lega. Ces violences ont provoqué la paralysie des activités et le déplacement de nombreux habitants. À ce stade, le ministre provincial de l'Intérieur, Lawa Moselemani, assure que la situation est sous contrôle.
Tout était parti de l'arrestation de leur chef coutumier qu'on appelle Mwami, ce qui n'a pas chanté les jeunes initiés qui avait commencé à s'affronter à ces Wazalendo qui culturellement n'étaient pas acceptés sur place. Et cela avait causé la mort du commandant des Wazalendo, un certain Kitima, qu'on a tué. Quelques temps après, on constatait les incendies des maisons et cela a encore ressuscité les conflits. Au stade actuel, l'autorité provinciale venait de déployer une équipe mixte pour pouvoir remettre de l'ordre et surtout sensibiliser la population à une cohabitation pacifique.
Malgré cette assurance de l'autorité, un SOS est lancé aux autorités humanitaires en faveur de familles déplacées qui passent nuit à la Belle Étoile. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le ministère de l'Éducation nationale de la RDC et Nouvelle Citoyenneté a publié les montants officiels des frais de participation aux épreuves certificatives province par province pour cette édition 2026. Ces frais concernent le TENASOP, l'examen d'état hors session et session ordinaire. Dans un communiqué publié sur son compte X, le ministère de l'Éducation de la RDC rappelle que la participation à l'ENAFEP, autre examen, elle demeure entièrement gratuite. Il invite ainsi la communauté éducative à se référer exclusivement aux informations officielles et à faire preuve de vigilance face à toute désinformation. Alain Hirung nous en dit plus.
Province du Bas-Ouélé, TENASOSP, 50 000 francs, hors session ex-état, 75 000 francs, session ordinaire ex-état, 75 000 francs. Province de l'Équateur, TENASOSP, 40 000 francs, hors session ex-état, 96 000 francs, session ordinaire ex-état, 86 000 francs. Province du Haut-Katanga, TENASOSP, 40 000 francs, hors session ex-état, 100 000 francs, session ordinaire ex-état, 60 000 francs. Province du Haut-Lomami, TENASOSP, 30 000 francs, hors session ex-état, 80 000 francs, session ordinaire ex-état, 55 000 francs. Province du Haut-Ouélé, TENASOSP, 35 000 francs, hors session ex-état, 60 000 francs, session ordinaire ex-état, 55 000 francs. Province de l'Itouri, TENASOSP, 30 000 francs, hors session ex-état, 75 000 francs, session ordinaire ex-état, 50 000 francs. Province du Kasaï, TENASOSP, 35 000 francs, hors session ex-état, 70 000 francs, session ordinaire ex-état, 65 000 francs. Province du Kasaï central, TENASOSP, 46 000 francs, hors session ex-état, 72 000 francs, session ordinaire ex-état, 55 000 francs.
Pour toute dénonciation, le gouvernement invite la population à appeler gratuitement le numéro vert 178. Les autres informations restent, elles, disponibles sur www.radiocapi.net, le site de votre radio. Au Sud Kivu, une motion de censure est en cours contre le gouverneur de province, Jean-Jacques Pourroussi, déposée depuis deux jours au bureau de l'organe délibérant. Le député motionnaire réproche au chef de l'exécutif l'incompétence et le détournement des fonds publics. Pour l'instant, toutes les institutions de la province du Sud Kivu fonctionnent à Uvira depuis l'occupation de Bukavu, chef-lieu de province, par les rebelles de AFC M23 le 16 février 2025. Les détails avec vous, Jean Kassami.
La motion suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique du Sud Kivu. Même les députés sont divisés entre eux. Si certains estiment que la situation de crise sécuritaire qui court dans la province n'est pas favorable à l'ouverture d'une motion de censure, d'autres déclarent que l'état de guerre ne devrait pas offusquer la mégestion des deniers publics. Ce membre de la Ligue des indignés pour la citoyenneté responsable donne ici son point de vue.
Les taxes sont en train d'être perçues et consorts, mais aucun geste, même peindre un mètre carré d'un mur. Alors, Uvira bénéficiera quoi d'avoir hébergé les institutions de la province? En Ituri, il y a les ADF, il y a la rébellion, mais pendant qu'ils sont dans l'état de siège, le gouverneur militaire est en train de faire des œuvres.
Un avis non partagé par cet autre acteur de la société civile d'Uvira.
La motion de censure du député provincial Jean Karoumé n'est pas vraiment au moment opportun. Certes, il a la mission de contrôler aussi le gouvernement, mais le moment actuel, c'est encore trop compliqué. Eux-mêmes, les députés provinciaux, ne sont pas ouverts.
En attendant la décision du bureau sur la recevabilité ou non de la motion de censure, le gouverneur visé demeure imperturbable. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Les députés provinciaux du Kasaï central ont, eux, réellement destitué hier la ministre provinciale de la Santé à la suite du vote d'une motion de défiance. La décision a été prise lors d'une séance plénière organisée à l'Assemblée provinciale. Cette motion a été initiée par le député provincial Joseph Nkashama. Il reproche à Rose Kamweka, notamment un outrage à l'Assemblée provinciale, une gestion jugée opaque, ainsi qu'un manque de compétences. Les récits est ici fait par André Katende.
Sur les 23 députés présents, 13 ont voté pour le départ de la ministre, 9 s'y sont opposés, tandis qu'un bulletin a été déclaré nul. À la suite de cette décision, la ministre dispose de 48 heures pour déposer sa lettre de démission. Tout est parti d'une question écrite adressée le 19 mars par le député Joseph Nkashama à la ministre provinciale de la Santé du Kasaï Central. Faute de réponse, l'élu a transformé sa démarche en interpellation. À travers cette initiative, il cherchait à obtenir des éclaircissements sur plusieurs points, notamment les taux de mortalité maternelle et infantile, la gratuité des soins maternels et néonatales, les mesures de transparence budgétaire, la gestion des intrants médicaux, la surveillance épidémiologique, ainsi que l'état des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les structures sanitaires de la province. Se disant insatisfait, le député Joseph Nkashama avait déposé une motion de défiance contre la ministre Rose Kamwika. Il lui reprochait notamment l'outrage à l'Assemblée provinciale, la mauvaise gestion du secteur de la santé et les manques de transparence. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
À la province du Lualaba, le procureur général près la Cour de cassation a ordonné mercredi dernier la remise en liberté de 52 détenus à la prison centrale de Dilala à Kolwezi. C'était à l'issue d'un contrôle de la régularité des procédures judiciaires. Les détails avec vous, Paulin Munanga.
Parmi les détenus libérés, il y a ceux qui ont été arrêtés pour des faits bénins et d'autres, leur arrestation a été entachée des irrégularités, indiquent certaines sources à Kolwezi. Signalons que certains détenus ont été incarcérés depuis plusieurs mois sans jugement. La même source rapporte que cette libération s'inscrit dans la volonté du pouvoir judiciaire de garantir le respect des droits fondamentaux, de lutter contre les détentions arbitraires, la lenteur judiciaire tant décriée et de contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé en mission à Kolwezi a à cette occasion réaffirmé la détermination de la justice congolaise à faire prévaloir l'état des droits dans le strict respect des lois de la République. Signalons que cette opération s'apparente à d'autres déjà menées à Kinshasa et dans d'autres établissements pénitentiaires où plusieurs détenus ont été remis en liberté après examen de leur dossier. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC, le Liban et Israël doivent reprendre aujourd'hui leurs négociations à Washington sous médiation américaine, près d'une semaine après que les deux parties se sont accordées sur un cessez-le-feu de 10 jours. Mais malgré cette entente, l'armée israélienne et le mouvement armé libanais Hezbollah ont continué de s'affronter, les dirigeants libanais accusant Israël d'avoir perpétré un crime de guerre après la mort de la journaliste Amal Khalil dans une frappe aérienne israélienne dans le sud du pays. L'invité. En Mbujimayi, province du Kasaï oriental, les critiques se multiplient autour de certaines routes récemment asphaltées dans la ville. Depuis le week-end dernier, des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des nids de poules et même de matériaux de construction abandonnés sur la chaussée, des signes de dégradation précoce qui inquiètent les usagers. Pour faire le point sur de la situation, Esther Dalafina a rencontré Charles Mwanzaloulou, directeur provincial intérimaire de l'Office des voiries et drainages. Il revient sur l'état réel des travaux et les mesures envisagées. On les écoute.
Bonjour, monsieur Mwanzaloulou.
Bonjour, madame.
Nous sommes passés par l'avenue Tshibombo, qui est en pleine réhabilitation, modernisation, et nous avons trouvé il y a beaucoup de matériaux de construction sur la chaussée récemment asphaltée et la population se plaint par rapport à cette situation. Comment allez-vous faire pour que ces matériaux ne puissent pas dégrader la chaussée?
Merci beaucoup, madame, pour être venue vers nous et avoir la bonne information. C'est une chose vraiment capitale. Je vais commencer d'abord par féliciter la population, puisque on sent maintenant que la population est en train de s'approprier les travaux que nous sommes en train de faire, ce qu'on appelle communément contrôle citoyen. Si on a des critiques positives sur les travaux que nous sommes en train de faire, ça nous aide aussi à améliorer la qualité des travaux. Alors, concernant particulièrement l'avenue Tshibombo, nous avons, après asphaltage, nous avons recommandé à la entreprise d'ajouter un petit caniveau d'un seul côté pour recueillir des eaux qui viennent des parcelles, puisqu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'eau qui était en train de cheminer à côté de la chaussée. Nous avons carrément décidé que l'entreprise puisse faire un petit caniveau. C'est ainsi que l'entreprise a entreposé les matériaux sur l'asphalte pour construire ces petits caniveaux, puisque après les caniveaux, ce sont les parcelles des gens. Alors après ce travail-là, l'entreprise a fait un petit retard pour évacuer ces matériaux-là. De toute façon, avant que la population ne commence à s'alarmer, nous avions déjà recommandé à l'entreprise d'enlever ces matériaux. Je crois qu'aujourd'hui, si vous y passez, vous allez trouver que l'entreprise a déjà nettoyé cette chaussée. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de travaux qui restent sur les deux avenues, Chibombo et Luputa. Donc, ce qui est vrai, c'est que la population doit être apaisée, puisque ce sont des routes qui sont encore en chantier.
Côté de l'avenue Cathédrale, la route récemment asphaltée, il y a des nids de poules et maintenant il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux.
Oui, ça c'est aussi quelque chose de très important puisque moi-même j'ai parcouru dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont en train de faire des commentaires dans tous les sens. Je continue encore à dire à la population de Mbujimayi d'être vraiment apaisée. L'avenue Cathédrale est dans le projet de 25 km. Le projet de 25 km venait d'être réceptionné provisoirement au mois de décembre dernier. Alors, après réception provisoire, il y a beaucoup de recommandations que nous avons faites à l'entreprise. Et si vous allez sur l'avenue Cathédrale, vous n'allez pas trouver que c'est un nid de poules. C'est un écarissage. C'est l'entreprise qui a coupé l'asphalte pour réparer ce que nous lui avons recommandé. Puisque là, on a coupé et puis il a plu, il y a eu un peu de boue dans cet écarissage. Mais si vous allez sur la même avenue Cathédrale, vers la cave, vous allez trouver qu'il y a deux ou trois places qu'on a encore coupées puisqu'on doit venir réparer. Ce sont des petites surfaces. On ne peut pas démarrer l'usine d'asphaltage pour faire une brouette d'enrobé. L'entreprise Safrimex travaille sur Monseigneur Kongolo où il y a des grandes surfaces à asphalter. Ils travaillent sur Daipen. Il y a encore des petits travaux qui restent. Donc, le jour où ils vont préparer l'enrobé, des grandes quantités d'enrobé, ils vont couvrir les petits écarissages qu'ils ont déjà fait à travers la ville. Moi-même, je vous parle de l'avenue Cathédrale, là où il y a beaucoup des images que j'ai vues. Mais allez en face de la cave, allez sur l'avenue Odia David, vous allez trouver que c'est plus de 100 mètres qu'on a coupé pour remplacer l'asphalte. C'est pas une malfaçon, mais c'est une recommandation de la réception provisoire. La réception provisoire a été faite par une grande équipe venant de Kinshasa et la réception définitive viendra après une année. Ça veut dire que c'est au mois de janvier 2027 qu'on pourra venir juger complètement les ouvrages comme ceux des 35 km. Puisque 35 km a été réceptionné définitivement au mois de décembre. Je me rappelle encore qu'il y a une année et demie, les mêmes problèmes étaient soulevés sur les axes des 35 km. Donc je demande à la population d'être très apaisée puisque ces ouvrages sont encore dans les mains de l'entreprise.
Qu'est-ce qui reste à faire par rapport aux 14 km des routes qu'on devrait moderniser sur la ville?
Je reconnais que le projet de 14 km est un peu en retard, ça c'est vrai, mais les travaux se font. Pour une entreprise comme JMC, c'est une entreprise locale, d'abord à encourager. Les travaux qui sont en train d'être faits sont des travaux de qualité. Ça, il faut le dire. Mais dans l'exécution des travaux, il ne manque pas de problème. On n'a pas arrêté les travaux. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant qui va entacher la qualité des travaux qui sont en train d'être faits.
Monsieur Charles Lemoza Lolo, merci.
Je vous en prie, madame.
Fin de ce journal. Merci à Jude Bilanda, mais aussi à Jean-Claude Nsiala qui m'ont aidé à vous le produire. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.